Atlantique Mobile, l'appli de Banque Atlantique, intuitive et performante, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous dans 30 minutes vos réactions sur la mobilisation des enseignants du secteur public en Côte d'Ivoire. Hier, à l'appel de deux syndicats, ils étaient de nouveau en grève pour réclamer une prime comprise entre 150 000 et 400 000 francs CFA, soit entre 230 euros et 610 euros. Une grève considérée par le gouvernement comme étant illégale. D'ailleurs, la ministre de la fonction publique a menacé de licencier les enseignants qui ne seraient pas à leur poste. Et c'est donc dans ce climat de tension qu'hier, plusieurs responsables syndicaux du secteur de l'enseignement ont été arrêtés quelques heures et qu'un leader syndical a été condamné à 2 ans de prison ferme pour entrave au fonctionnement du service public. Alors que vous inspire ce bras de fer? Comprenez-vous les revendications des enseignants et diriez-vous que le droit de grève en Côte d'Ivoire est menacé? Après les propos de la ministre Anne-Désirée Ouloto, on en débat et vous êtes nombreux ce matin à nous appeler. On a des enseignants, des parents d'élèves, des fonctionnaires et puis des Ivoiriens lambda qui travaillent dans le secteur privé et qui ont évidemment un regard sur cette actualité. 33 9 693 693 70 et comme tous les jours, je lirai quelques-uns de vos nombreux commentaires envoyés sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction de RFI pour mieux comprendre l'actualité. On va commencer avec Bernardin. Bonjour.
Bonjour Juan.
À Bukavu, en République démocratique du Congo, et vous avez des questions concernant justement l'Est de votre pays, la RDC.
Oui, justement. Bonjour d'abord à tous les auditeurs de RFI. Alors, l'Union africaine a proposé récemment Faure Gnassingbé comme nouveau médiateur entre Kinshasa et Kigali. J'ai deux questions. La première, je voulais savoir pourquoi la tension s'est portée sur le président togolais, et aussi Monsieur Juan, une deuxième question.
Allez-y.
Quelles sont les relations du président togolais avec les deux parties, c'est-à-dire la RDC et le Rwanda?
Bonne question que vous posez, Bernardin. Rappelez-vous, il y a 2 semaines, à peu près à cette heure-ci, après la décision de João Lorenzo de mettre fin à sa médiation, un auditeur nous demandait qui pour succéder au président angolais. Eh bien, ce matin, nous avons désormais un début de réponse. Bonjour Patient Ligaudy.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service Afrique de RFI. Je disais un début de réponse car la nomination du président togolais doit encore être validée par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Je comprends l'interrogation de Bernardin. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à un chef d'État de la région des Grands Lacs, d'Afrique de l'Est, d'Afrique centrale. Pourquoi Faure Gnassingbé a-t-il été proposé?
D'abord, il faut rappeler que la SADC et la communauté d'Afrique de l'Est, l'EAC, ont décidé de fusionner le processus de Nairobi et de Luanda jusqu'à la mêlée séparément. Elles ont désigné des co-facilitateurs, l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo, l'ex-président kényan Uhuru Kenyatta, l'ex-président de l'Éthiopie Sahle Work Zewde et l'ex-président centrafricaine Catherine Samba Panza. Mais tous sont aujourd'hui sans fonction exécutive et n'exercent pas une réelle influence directe sur Félix Tshisekedi ou Paul Kagame, d'où la conviction exprimée par plusieurs sources diplomatiques proches de João Lorenzo que la médiation aurait besoin d'une personnalité en fonction considérée comme un père, un égal par les deux présidents.
Ouais, alors pourquoi Faure Gnassingbé?
Alors parce qu'il y avait peu d'options crédibles et que ces choix ne seraient pas le fruit d'une improvisation. Selon des sources à la présidence angolaise, la question a été longuement étudiée et au niveau des lignes africaines, on met en avant l'expérience du président togolais dans l'émission précédente des médiations sur les continents, notamment au Mali, hein, où il avait accepté d'agir comme facilitateur lors de la transition politique.
Mais dans le cas précis de la RDC et du Rwanda, pourquoi lui?
Alors, parce que Faure Gnassingbé entretient de bonnes relations avec les deux parties, reconnaissant à Kinshasa et à Kigali. Côté rwandais, les échanges sont réguliers et des hauts niveaux. Le président togolais s'est rendu plusieurs fois à Kigali ces dernières années. On peut prendre quelques exemples. En mars 2019, pour des discussions bilatérales avec Paul Kagame, ou encore en août 2024, il avait assisté à la cérémonie d'investiture du président Kagame. En plus, il faut dire qu'en janvier 2025, il a effectué une visite d'amitié dossier de travail avec une délégation des ministres togolais. Les deux présidents ont parlé d'une coopération élargie entre le Togo et le Rwanda, agriculture, commerce, énergie, financement vert. Ils ont également parlé d'accords structurants en cours des négociations, un accord de coopération générale, la création d'une commission mixte permanente, des consultations politiques périodiques, une exemption réciproque des visas et un accord de non-double imposition.
Donc à vous entendre, il y a une vraie relation de confiance avec Kigali.
Oui, clairement, Paul Kagame l'a même qualifié de frère et ami. Lors de leur dernier échange à Kigali, les deux dirigeants ont eu un tête-à-tête au puits des discussions entre ministres.
Ouais, Fornia Simbe entretient-il également de bonnes relations avec Kinshasa?
Oui, avec Kinshasa aussi, les relations existent, plusieurs rencontres informelles, mais on peut citer deux plus récentes dans un cadre plus formel. En juillet 2023 à Kinshasa, lors de l'ouverture des Jeux de la Francophonie, et surtout en mars 2024, lorsque Félix Tshisekedi a effectué une visite d'amitié et de travail à Lomé, au Togo, cette visite s'inscrivait dans le cadre des consultations régulières entre les deux chefs d'État. Ils avaient discuté de coopération bilatérale, mais aussi des enjeux de paix et de sécurité sur le continent.
Voilà, donc pour l'Union africaine, Fornia Simbe correspond au profil recherché pour poursuivre cette médiation entre Kinshasa et Kigali.
C'est ce que l'Union africaine recherche, on peut le dire comme ça, explique un diplomate, quelqu'un de discret, avec des canaux ouverts des deux côtés et sans implication directe dans le conflit. C'est ce qui a conduit le président angolais, João Lourenço, président en exercice de l'Union africaine, a proposé que Fornia Simbe devienne médiateur dans cette crise. La proposition a été approuvée, vous l'avez dit, par le bureau de l'Union africaine en attendant la validation formelle par l'Assemblée des chefs d'État.
Et on suivra ça bien évidemment. Bernardin, a-t-on répondu à vos questions? Êtes-vous satisfait?
Tout à fait, c'est parfait.
Eh bien, on remercie Patient Ligodi du service Afrique d'RFI d'être venu nous éclairer. Bonne journée à tous les deux.
Merci beaucoup.
10h17 à Paris, on repasse au standard. On va parler du Bénin. Yosounon, bonjour.
Bonjour, Juan Gomez. Bonjour à Jean-Luc Aplogan, votre correspondant à Cotonou.
Eh bien, vous savez quoi? La magie de la radio fait que Jean-Luc Aplogan est avec nous. C'est lui qui va répondre à vos questions. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. On vous a appelé, Jean-Luc, puisque Yosounon a des questions à vous poser sur le Bénin après l'adoption d'une loi sur la chefferie traditionnelle. On vous écoute, Yosounon.
J'ai entendu sur RFI qu'au Bénin, la loi pour reconnaître la chefferie traditionnelle interdit à ces chefs traditionnels de s'impliquer dans la politique. À ce sujet, Juan, j'ai deux questions. La première, comment expliquer cette interdiction? Comment réagissent les principaux concernés?
Oui, on va planter le décor d'abord, Jean-Luc Aplogan. Rappelez-nous le contexte. D'où vient cette réforme?
Eh bien, cette réforme vient de la Constitution révisée en 2019 qui reconnaît la chefferie traditionnelle comme gardienne des us et coutumes. C'est un projet de loi du gouvernement inspiré d'un rapport d'un comité d'historiens, d'anthropologues, d'universitaires mis en place en 2022. Le but était de réformer entièrement la chefferie traditionnelle et d'organiser son régime juridique. La loi a été votée donc le 13 mars dernier par les députés et cette loi reconnaît trois catégories d'autorités traditionnelles, les rois en tête, les chefs traditionnels et les chefs coutumiers. Désormais, au Bénin, donc, sont reconnus 16 royaumes, 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières. Sur la liste des 16 royaumes reconnus figurent par exemple le royaume du Dahomey, où le roi Béhanzin a régné, le royaume de Niki, au nord du pays, celui de Rogbonou, la capitale. Et dans cette loi, l'article 17, et là c'est la question de l'auditeur,
ben oui.
Cet article interdit au roi de faire de la politique.
Alors pourquoi une telle interdiction?
L'article est clair, le roi, le chef traditionnel supérieur, le chef coutumier, ne peut être membre d'aucun parti politique, c'est l'article 17 que je viens de citer. Il leur est demandé de respecter les principes de neutralité, d'impartialité et de réserve. Un membre de la commission des lois du Parlement qui a travaillé sur cette loi nous explique qu'un roi est pour tout le royaume, il est souvent sollicité pour des conciliations et des arbitrages. S'il a une couleur politique, poursuit notre interlocuteur, on peut douter de l'impartialité de cette décision. Autre raison, par le passé, lors des campagnes électorales, les palais royaux étaient des passages obligés pour les candidats qui s'y rendaient pour négocier ou acheter le soutien du roi, ce qui n'était pas très bien vu pour l'idée qu'on se fait ici de la couronne et du respect qu'on a pour les rois. Tout manquement à cette interdiction de faire de la politique est puni par un avertissement d'abord, ensuite une suspension et cela peut aller jusqu'au retrait de l'acte de reconnaissance de votre royaume.
Effectivement, il y a des sanctions qui sont prévues, et je précise que les rois, les chefs supérieurs ou les chefs coutumiers qui sont en ce moment même membres d'un parti politique disposeront de 3 mois pour justement se conformer à la loi et ne plus appartenir à un quelconque parti. Yosounou nous demandait comment réagissent les intéressés.
Alors, sur cette interdiction de faire de la politique, il n'y a pas eu beaucoup de critiques. En revanche, il y a eu de nombreuses réactions sur cette réorganisation. On a enregistré 41 pétitions venant de mécontents de la loi. Elles estiment que leur royaume a disparu ou a été oublié ou encore a été relégué dans la catégorisation. Le président de la commission des lois a eu cette explication. La commission n'a pas réinventé l'histoire ni cherché à réparer l'histoire. Le secrétaire général du Haut Conseil des rois du Bénin, dans un discours d'apaisement et d'espoir, a déclaré sur notre antenne lundi « Une loi, ce n'est pas quelque chose d'éternel, elle est modifiable à tout moment. C'est pourquoi je demande à ceux qui n'ont pas été retenus de ne pas tellement s'affoler. »
Et j'aimerais qu'on en parle lundi, si vous le souhaitez, évidemment, vendredi plutôt, dans la Libre Antenne. Vous qui êtes au Bénin, vous avez forcément un point de vue sur cette loi sur la chefferie traditionnelle qui a donc été adoptée le mois dernier, mais qui n'a toujours pas été promulguée. Sujet qui fait débat sur place. A-t-on répondu à vos questions, Yosounou ?
Très bien répondu. Merci à Jean-Luc Aplogan.
Correspondant de RFI à Cotonou, je vous souhaite une bonne journée à tous les deux. 10h22 à Paris, ce sont vos questions. 33 9 693 693 70. Des explications, des questions et des explications. Et les explications sont à réécouter évidemment à tout moment sur l'application RFI Pure Radio. Bonjour Faridi.
Bonjour.
Merci de nous écouter à Moroni, dans l'archipel des Comores. Vous avez des questions concernant les relations entre les États-Unis et l'Iran ?
Oui, effectivement, j'ai 2 questions à demander à vos experts.
Oui.
Je suis à Moroni. Mmh. Normalement, je suis de près les relations diplomatiques à l'état actuel entre les États-Unis et l'Iran.
D'accord.
On sait pertinemment que les États-Unis et l'Iran n'entretiennent plus de relations diplomatiques. Presque un bail.
Oui, 45 ans. Depuis 45 ans, pour être précis.
Depuis 45 ans, oui, voilà. Et du coup, récemment, Donald Trump, président des États-Unis, avait annoncé une relance des négociations sur le programme nucléaire iranien.
Oui.
Donc moi, je souhaiterais savoir, par exemple, j'ai 2 questions que j'aimerais savoir.
Alors, posez la première. Oui.
Oui, voilà, la première. Je souhaiterais savoir quelle est la position de l'Iran concernant ces négociations.
Et Donald Trump a même annoncé une grande réunion pour ce samedi. Bonjour Thierry Coville.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste de l'Iran. Téhéran a-t-elle réagi aux récentes déclarations de Donald Trump qui souhaite, dit-il, rediscuter et discuter directement avec l'Iran ?
Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, en fait, Donald Trump a écrit une lettre directement au guide Ali Khamenei il y a quelques semaines. Et en fait, on sait que Ali Khamenei, le guide, hein, c'est un événement important, lui a répondu directement. Et donc, la position officielle de l'Iran, c'est qu'ils sont prêts à discuter du programme nucléaire iranien. Eux, ils veulent des discussions indirectes, c'est-à-dire qu'il y a un intermédiaire.
Mm-hmm.
Mais ils ont répondu, on va dire, favorablement à la proposition de Donald Trump.
Oui, donc, alors que Donald Trump, lui, veut des discussions directes. Et d'ailleurs, on peut même imaginer que le souhait de Trump, c'est de se retrouver face à face, en tête à tête, avec le guide de la révolution, le guide suprême iranien.
Alors, en fait, ce qu'on sait, c'est que donc, ces discussions vont commencer à Oman.
Samedi.
Donc, on va dire, le sultanat d'Oman joue ce rôle d'intermédiaire.
Mmh.
Mais... du côté américain, c'est Steve Wilkoff, hein, qui est l'envoyé spécial de Trump pour le Moyen-Orient, et du côté iranien, c'est le ministre des Affaires étrangères iranien. Pour répondre précisément à votre question, je pense que les Iraniens jouent un peu sur les mots. À partir du moment où le guide Ali Khamenei a répondu directement à la lettre de Trump, quelque part, ils acceptent le dialogue avec les États-Unis. Le sultanat d'Oman, on voit pas trop le... Vous voyez, ils vont fournir une salle, on voit pas trop le rôle qu'ils vont jouer, mais... Bon, je pense que ce qu'il faut bien voir, c'est du côté iranien, il y a une énorme méfiance hein, par rapport aux États-Unis suite à la sortie de l'accord sur le nucléaire par Trump, justement, en mai 2018. Donc, pour des questions, je pense, surtout de politique intérieure, ils ne veulent pas avoir l'air d'accepter de discuter directement avec les États-Unis.
Thierry Coville, Faridi a une dernière question à vous poser. Allez-y.
Oui, ma deuxième question est la suivante. À quoi peut-on alors attendre de ces discussions, sachant que c'est Donald Trump lui-même qui avait déjà retiré les États-Unis de l'accord nucléaire iranien, comme ça a été souligné.
Effectivement, Thierry Coville, on se souvient tous évidemment de cette décision spectaculaire de Trump lors de son premier mandat. Il retire les États-Unis de cet accord sur le nucléaire iranien. Que cherche-t-il à obtenir et que peut-on attendre de ces nouvelles discussions ?
Alors ça, c'est la question à $1 million, on va dire. Donc, déjà, il faut voir sur quoi ces discussions vont porter. Il y a deux grandes questions. Alors, s'il y a certains conseillers de Donald Trump qui ont dit « oui, on va discuter du problème nucléaire iranien, mais également de la politique balistique de l'Iran, problème balistique de l'Iran et de sa politique dans la région ». Du côté iranien, c'est clair, ils veulent parler que du problème nucléaire iranien. Mmh. Donc, on va voir si ça va porter que sur le programme nucléaire iranien. Et même si ça porte que sur le programme nucléaire iranien, il y a plusieurs questions qui se posent. C'est qu'on voit, il y a par exemple, je crois, Benjamin Netanyahou qui vient de dire « Ah oui, moi, j'ai ma proposition pour le programme nucléaire iranien. Il faut qu'on fasse comme pour la Libye, c'est-à-dire qu'on enlève toutes les installations d'enrichissement de l'uranium en Iran. Et ça, c'est la façon d'être sûr que l'Iran n'aura pas la bombe atomique. » Alors, que du côté iranien, ils veulent bien, comme pour l'accord 2015, donner des garanties que leur programme nucléaire restera civil, n'ira pas vers le militaire, en limitant leur capacité d'enrichissement, mais il est absolument hors de question qu'ils arrêtent toute activité d'enrichissement d'uranium. Ouais. Donc, on va bien voir de qu'est-ce qui va sortir de ces discussions.
Trump a dit que si un nouvel accord était trouvé, il serait différent et peut-être beaucoup plus robuste. Mais il a également souligné que si les discussions n'aboutissaient pas, l'Iran serait en grand danger.
Oui, bon, c'est un peu, maintenant on commence à le connaître, c'est un peu sa tactique habituelle, c'est-à-dire qu'il commence des négociations, on le voit du côté des tarifs, hein, en bousculant la table, en donnant des grands coups de menton, donc effectivement, dans les leviers qu'il a pour faire peur à l'Iran, c'est leur dire, il l'a dit, je crois, dans sa lettre, hein, à l'Iranie, si il n'y a pas de négociation, on va vous bombarder. Oui. Il y a également un autre levier qu'il a commencé à utiliser, c'est qu'il veut remettre en place une politique de pression maximale sur le plan économique contre l'Iran, ce qui veut surtout dire de stopper les exportations de pétrole de l'Iran vers la Chine. Bon, mais je pense que c'est un moment très important quand même que les deux pays commencent à discuter ensemble. Vous savez, on ne sait jamais ce qui peut sortir de négociations, mais s'ils arrivent à commencer à mieux se comprendre, même avec un intermédiaire, on va dire, tout en restant très très prudent, ça prend une discussion plus favorable qu'effectivement qu'un affrontement militaire.
C'était passionnant et on suivra évidemment cette réunion importante, réunion surprise ce samedi à Oman. Thierry Coville, merci infiniment. Faridi, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, bien sûr. Merci beaucoup à M. Thierry d'avoir apporté plus d'éclaircissement. C'était à la hauteur de
mes questions. Eh bien, si c'était à la hauteur de vos attentes, tant mieux. On est là pour ça tous les matins. Faridi, en plus, je vois sur ma petite fiche du standard que c'était votre première participation à l'émission. Tout s'est bien passé. Donc, merci de vos encouragements et vous revenez quand vous le souhaitez. RFI à Moroni, c'est sur les 103 FM. Merci Thierry Coville, chercheur à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Il me reste une petite minute. Je vais quand même prendre à l'antenne Papson pour m'excuser. Il a patienté quasiment toute cette première partie. Bonjour Papson.
Bonjour Juan.
Oh, le réseau téléphone s'est considérablement dégradé. J'ai envie de dire, heureusement qu'on a peu de temps et qu'on ne peut pas vous prendre à l'antenne ce matin. Si vous êtes disponible, on vous rappelle demain et vous pourrez évidemment poser vos questions. Merci à tous de nous suivre à la radio et de nous suivre également en direct, en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI. Daouda nous dit « Bonjour RFI, je vous suis depuis Ouagadougou. Longue vie à cette chaîne. » Joël nous dit « Bonjour RFI. » Joël a paubé au Bénin, longue vie à votre émission, merci de nous suivre sur les réseaux sociaux, merci à tous. On va marquer une pause, retrouver l'ensemble du service Afrique pour la dernière édition d'Afrique Matin et on revient tout de suite après avec vos réactions sur la menace du gouvernement ivoirien de licencier les enseignants grévistes, vos témoignages, vos coups de gueule. Il y a beaucoup d'enseignants qui souhaitent prendre la parole ce matin, mais aussi des parents d'élèves.